Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les très grosses petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres promenades.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de septembre 2026 de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prendra à nouveau le temps de vous parler de spectacles vivants. Excusez-nous, on est en train de faire nos petits calages du début. Cette émission est une coproduction entre Principe Actif et Le Tangramme. Et pour moi, c'est un plaisir de retrouver Caro et Nat au micro pour cette nouvelle saison. Bonjour Caro, bonjour Nat.
Bonjour JC.
Et bonjour JC.
C'est un plaisir de repartir sur cette nouvelle saison, ce premier vendredi de chaque mois où nous échangerons, discuterons et aurons des invités autour du spectacle vivant de manière générale et de ce qui aura attiré notre attention. Au sommaire de cette émission, riches et variés, nous parlerons matrimoine.
Et oui, c'est bientôt les journées du patrimoine et comme nous faisons partie du collectif HF Normandie, nous allons avoir deux jours très intenses avec plein de spectacles abordant les questions de la femme et de sa place dans la société.
Pour ce, nous aurons deux invités durant cette émission. La toute première, c'est Hélène Francici. Peut-être deux mots dessus.
Hélène Francici, c'est une comédienne qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on accueille dans de nombreuses mises en scène au niveau national et régional. Et là, Hélène va faire une lecture théâtralisée d'un texte qu'elle a elle-même écrit qui s'appelle « L'effet Mathilda ».
Nous recevrons donc une deuxième invitée qui est Nadège Catelino.
Oui, Nadège Catelino qui nous parlera, donc qui est une auteure ou autrice, comédienne et metteuse en scène. Et elle nous présentera, parlera de son projet en cours de création qui s'intitule Elvire 27, dont nous trouverons déjà une lecture performée lors des journées du matrimoine.
Nous ferons un tour du côté de l'agenda non exhaustif, bien entendu. Nous vous parlerons de ce qui a retenu notre attention. Nous terminerons avec un traditionnel extrait de film. On n'en dit toujours pas plus pour maintenir le suspense. Une autre des traditions que nous retrouverons, mais pas pour ce mois-ci, c'est le son d'ambiance. Le prix de vitesse par la rentrée, je n'y ai même pas pensé à ce son d'ambiance. Mais je vous promets, dès les prochaines émissions, nous aurons ce fameux son d'ambiance. Tout de suite pour ouvrir, nous partons en musique avec un premier titre, c'est Dolly Parton que nous allons déguster.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Want to
just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Nous écoutions Dolly Parton avec 9 to 5 ou 9 to 5 pour certains, c'est un petit clin d'œil.
C'était Night to 5.
Night to 5 même. Un hommage à Dolly Parton hein, qui nous a quitté il y a quelques semaines, hein, cette grande dame de la musique country américaine. C'était notre petit clin d'œil, notre hommage, mais également mon choix pour... c'est la rentrée, et c'est une rentrée un peu sur les chapeaux de roue, comme est la vie d'une femme de 9h du matin jusqu'à 5h du soir pendant qu'elle travaille. Voilà, c'était ce petit clin d'œil de rentrée et cet hommage.
Nous sommes avec Hélène Francici, comédienne, qui nous proposera une lecture autour de l'effet Mathilda à l'auditorium du Tangram le samedi 19 à 16h. Bonjour Hélène, comment allez-vous ?
Ça va bien, et vous-même ?
Eh bien, ça va très bien également, merci. Je voulais revenir, là, nous avons une émission spéciale autour des journées du matrimoine en particulier. Le patrimoine, ça fait des années et des années qu'on en entend parler. Depuis une dizaine d'années, cette notion de journée du matrimoine intervient au niveau du grand public et également dans les manifestations. Moi, je voulais vous questionner pour commencer un petit peu, Hélène, autour de qui êtes-vous et comment finalement ces journées du matrimoine font écho pour vous.
Alors, moi j'ai 53 ans, bon je vais peut-être pas faire un listing de tout ce que je suis, mais en gros oui, je suis comédienne avec une compagnie de théâtre depuis 2019 qui s'appelle Une chambre à soi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'Une chambre à soi, c'est un essai de Virginia Woolf qui traite justement de toutes les questions dont on va parler dans l'effet Mathilda, à savoir l'invisibilisation des femmes, donc elle c'est dans la littérature, mais là on parle plus des femmes invisibilisées dans la science, puisqu'en fait l'effet Mathilda, c'est une expression qui a été créée en 1993, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par une historienne des sciences américaines qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Margaret Rossiter. Et en fait, elle fait référence à une militante du 19e siècle qui avait déjà dénoncé l'effacement des femmes dans l'histoire et qui s'appelait, alors je ne connais pas son nom, mais en tout cas son prénom s'appelait Mathilda. Donc voilà, c'est pour ça que qu'on appelle ça l'effet Mathilda. Donc j'ai peut-être fait une digression par rapport à la question dont vous m'avez...
Mais le lien se fait assez facilement finalement, le lien se fait facilement entre votre parcours.
Je réponds en partie en vous disant que voilà, j'ai quand même un nom de compagnie qui fait quand même écho à la femme et à la place des femmes de façon générale dans la société. Et du coup, voilà, c'est des questions qui me taraudent depuis une grosse dizaine d'années. Je dis ça parce que je n'étais pas forcément concernée il y a 20 ans par ces notions-là, qui semblaient acquises ou en tout cas qu'on interrogeait moins. Voilà, et qui là, depuis évidemment tout ce qu'on connaît, le mouvement MeToo et plein d'autres choses qui ont été mises en place, reviennent de façon très très forte et ressurgissent en tout cas très forte, de façon très forte en moi. Voilà.
Cet effet Mathilda est un effet, alors c'est le nom qu'on donne à cet effet d'invisibilisation des femmes, notamment dans tous les mouvements, je dirais scientifiques, littéraires, mais pas seulement d'ailleurs. Hein, c'est jusqu'au quotidien, cet effet Mathilda intervient. Cet effet Mathilda. Alors on évoquait tout à l'heure la science. Alors de temps en temps, on a le contre-exemple aussi. Finalement, on pense à Marie Curie, notamment, qui est une des rares femme connue dans le milieu de la science. Oui, c'est quasi la seule. Cet effet Mathilda, finalement, il existe depuis toujours, quasiment. C'est la traduction d'une société patriarcale.
Ah bah complètement. Bah voilà, vous avez tout dit. Effectivement, elles sont oubliées, elles sont reléguées au rang d'assistantes, de bénévoles, et donc tout ce que les femmes ont légué, les œuvres, les découvertes, les textes, les inventions, en fait, on n'a jamais eu de traces ni de nom, parce qu'en fait, c'est le nom aussi qui fait que on est quelqu'un et qu'on laisse une trace. Tout ça a été effectivement relégué aux hommes, quoi. Voilà, c'est les hommes qui ont pris la lumière. Voilà, tout à fait. Mais vous avez tout dit. Et c'est incroyable de voir en plus combien elles étaient nombreuses, combien elles étaient, voilà, il y en a même vraiment, voyez, par le travestissement qu'ont essayé, et ça c'est dans tous les arts, qu'ont essayé de d'avoir une place en se travestissant, en se déguisant, vraiment tous les subterfuges ont été mis en place pour qu'elles puissent exister, avoir leur part, mais bon, évidemment, comme vous dites, le sapage du patriarcat fait que ça a été impossible pendant des siècles.
Aujourd'hui, c'est toujours une lutte à tenir, parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui on parle des journées du matrimoine, on parle de l'effet Mathilda, des textes sont lus, notamment ce que vous ferez le samedi 19 à l'auditorium du Tangram, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore, pour vous, une cause à aller défendre, même remuer, au-delà de la défendre, à remuer encore ?
Oh ben oui, c'est certain, parce qu'il y a des avancées, hein, on ne peut pas les nier, énormes, mais on sait que les avancées peuvent être reculées très très vite, surtout quand il s'agit du droit des femmes. Hein. On sait que quand on perd sa démocratie, quand le populisme augmente, voilà, on sait très bien que le droit des femmes régresse, ça c'est pas nouveau, hein. Toutes les femmes l'ont dit bien avant nous, notamment Gisèle Halimi. Donc oui, bien sûr. Et puis dans nos milieux, j'allais dire, dans l'entre-soi, vous voyez, de théâtre et tout, bien évidemment que les choses, et encore, hein, mais en tout cas les choses évoluent. Mais il y a plein d'autres endroits, corps de métier et tout, où ces notions-là, elles n'existent même pas encore. Vous voyez, elles sont totalement invisibilisées, quoi.
Vous allez justement lire un texte, comme je le disais, à l'auditorium ce samedi 19, à l'auditorium du Tangram. Le texte, comment l'avez-vous choisi, travaillé, comment est-ce que vous voulez nous l'apporter ?
Un texte, c'est vraiment, j'allais dire, une conférence, mais sans que ça fasse cours d'histoire. C'est vraiment, l'idée, c'est que les gens repartent en ayant appris des choses, et c'est pas non plus de faire une liste, parce que, évidemment, je parle du tiers, d'un quart, de la moitié de toutes ces femmes. Donc, en fait, c'est une commande que j'ai eue, évidemment, pour les journées du matrimoine, mais aussi de la culture scientifique de l'université, parce qu'en fait, ma compagnie a été associée pendant 3 ans à l'université de Rouen, et donc c'est vraiment des outils que je donne. Ça, il doit vraiment y avoir une vertu pédagogique. Donc c'est pas, vous voyez, une pièce de théâtre, ça n'a rien à voir, c'est une lecture que je rends la plus vivante possible, avec de l'humour et avec cette espèce de plaisir jubilatoire qui consiste à dire enfin, pourquoi est-ce que personne n'a raconté ça avant? Mais pourquoi elle existait et on n'en a pas parlé? Donc l'idée, c'est quand même ça. C'est quand même que les gens, voyez, c'est une conférence ludique, voilà, parce qu'évidemment, comme je suis comédienne, je vais pas dire ça, voyez, comme... Mais l'idée, c'est quand même ça. C'est que, voilà, c'est un texte que j'ai écrit à partir de toutes les sources que j'avais, de toutes les inspirations, mais ça reste, j'aime pas dire une conférence, mais voyez ce que je veux dire.
C'est ça, c'est de l'information.
Mais sur le fond, voilà.
C'est de l'information sous une forme plus artistique, mais ouais, qui reste tout de même une information autour d'éléments factuels. Quoi. Le but du jeu, c'est de ressortir, peut-être pas tout à fait comme on est rentré dans la salle.
Bah oui, oui, c'est d'avoir appris des choses. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai de plus en plus de mal à aller au théâtre en ressortant et en n'ayant rien appris. J'aime bien... Voilà, donc là c'est pas vraiment du théâtre, mais c'est quand même moi qui le fais avec un ton très gouailleur et très enjoué, je crois.
Ça fait encore partie des éléments qui, pour aller finalement éveiller les uns les autres, l'humour reste quand même, le ton humoristique en tout cas, la douceur humoristique peut faciliter le message.
Ah bah, chez moi c'est certain. Peut-être pas forcément chez tout le monde, mais chez moi c'est certain. Ah oui, de l'humour. Plus c'est grave, plus il en faut. Et puis en plus, voilà, en ces heures assez sombres, je pense que la seule façon aussi de faire passer des choses, c'est quand même aussi par l'humour, quoi. Et je tiens à dire aussi que c'est pas du tout une lecture qui exclut les hommes, hein, parce que ça, malheureusement, on a trop tendance à le penser et tout, pas du tout. Je veux dire, encore une fois, on démonte pas les hommes, on démonte un système. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est très important de le souligner. Voilà.
ça fait partie de toutes les questions, et notamment des mouvements féministes, où finalement, on fait ensemble, on fait pas contre.
Ah bah non, voilà.
Ça sert à rien de réinverser la vapeur en ayant les mêmes procédés, c'est ça l'idée.
C'est ça. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est que la lutte, elle passe forcément par une radicalité. Et c'est là où toute la complexité du problème est là, quoi. C'est-à-dire, il faut à la fois y aller de façon très dure et radicale pour que les choses bougent, et en même temps, il faut nuancer. Et alors ça, c'est vraiment toute la difficulté de la lutte, je trouve. Voilà.
Alors peut-être il faut aussi des branches, on va dire, plus radicales et des branches plus constructives.
Oui, exactement. Et puis c'est aussi la façon dont on est aussi, dont on se comporte. Voilà, moi je me questionne beaucoup aussi sur mon rôle de mère. Je pense que je n'aurais pas du tout élevé mon fils il y a 22 ans toute seule comme je l'aurais... Enfin, oui, donc il y a 22 ans comme je l'aurais élevé aujourd'hui. Il y a aussi des questions beaucoup plus sur l'intime qui doivent se... Bah voilà, qui doivent questionner, quoi. Voilà, des questions qui questionnent. Bravo, merci Hélène.
c'est tout ce qu'on attend de vous, du coup, à travers cette lecture. C'est des questions qui questionnent. Le but du jeu, c'est de pas partir... Non, mais justement, à travers ce que vous dites, c'est pas partir avec des réponses, peut-être, c'est repartir avec des questions, parce que c'est avec ça qu'on avance, finalement, avec des questions, plus qu'avec des réponses.
Oui, si tant est que l'effet Mathilda, l'idée, c'est quand même de remettre à l'honneur des femmes qui n'ont pas du tout... Donc, il n'y a pas vraiment de questionnement là-dessus. Il y a une réalité qui fait que, voilà... On fait une enquête joyeuse, vous voyez, pour dire mais où sont passées toutes ces femmes. Et c'est vraiment, voilà, c'est là pour le coup, il n'y a pas vraiment de questionnement. C'est qu'on les a oubliées, on les a minimisées ou même effacées. Et que voilà, et que l'idée là dans cette lecture, c'est de les remettre à l'honneur, quoi.
Le questionnement, je le situais à quand on a une information, aller chercher s'il n'y a pas également des femmes autour, ou quand on lit un texte et qu'on se dit assister de, ça voulait dire quoi, ou plus exactement dans nos pratiques aussi quotidiennes, comment ne pas invisibiliser dans notre quotidien peut-être notre collaboratrice, notre collègue, notre voyez-vous, dans tous ces effets-là, savoir si soi-même nous ne sommes pas l'auteur d'un effet Mathilda.
Dites donc, vous êtes bon à marier, vous. voilà, vous auriez pu faire l'interview vous-même. Hein.
Ça fait partie des questions qui nous animent aussi au sein de la radio et notamment dans l'émission Scène de vie, bien entendu. Oui. Merci beaucoup, Hélène Francici, d'être passée par nos micros.
Merci à vous.
Et puis je vous rappelle. Vous aussi, je rappelle, on vous retrouve à l'auditorium du Tangram le samedi 19 à 16h. Merci à vous.
Merci beaucoup, JC.
Et c'est gratuit, voilà, on a oublié de le préciser, à l'auditorium du Cadran, et c'est gratuit. On repart en musique, et ça y est, j'ai perdu le fil du bon déroulement des choses, c'est Orange Blossom que nous allons écouter ensemble. Orange Blossom avec le titre Awa, Caro.
Oui, c'était un titre un peu particulier puisque là, nous n'avions que de l'instrumental. Or, le groupe, ça chante, hein, ça mélange, comme vous l'aurez vu, influence électronique et musique orientale. Orange Blossom, on l'a déjà accueilli il y a quelques années. On est content qu'il revienne cette année au Cube. Et je voulais faire un petit coup de projo parce que c'est le concert, à mon sens, à ne pas rater ce trimestre. Et ils seront sur la scène du Cube le vendredi 30 novembre à partir de 20h.
Le 20, je crois.
J'ai dit le 30. Ah, c'est le 20.
C'est le 20.
Erreur fatale.
Et nous poursuivons avec notre invité, Caro.
Oui, aujourd'hui, nous avons la chance, en plus donc d'Hélène Francici, d'accueillir sur nos ondes Nadège Catlino pour son prochain projet que nous allons retrouver deux fois dans l'année. Une fois donc à l'occasion des journées du matrimoine au Théâtre Legendre prochainement, là, ce mois-ci. Et puis un peu plus tard dans l'année, au mois de mars, je crois, mars ou mai, pour sa résidence de création, cette fois-ci, sur le même spectacle, Elvire 27.
Non, c'était juste pour dire bonjour à Nadège. Alors, bonjour Nadège, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien.
Caro vient de nous parler du coup de la résidence et des spectacles proposés. Nous avons une émission aujourd'hui spécifiquement en tout cas tournée vers les journées du matrimoine, les questions de l'effet Mathilde et des questions plus largement féministes et des places de la femme sur scène, mais en dehors de la scène également. Nadège, vous êtes portée par ces questions également de féminisme. Quelle est un petit peu, vous, votre position, votre regard en tant qu'autrice, metteuse en scène?
Ce qui m'anime, notamment à travers le spectacle hashtag Elvire27, c'est d'inventer, de penser des partitions pour les actrices et des récits aussi portés par des actrices et des personnages féminins se déploie en marge des stéréotypes de genre, de vraiment travailler sur ce que c'est qu'une performance féministe, c'est-à-dire un endroit, une zone de liberté, d'occupation de l'espace du plateau, d'engagement dans la parole, dans le verbe, dans des émotions, des états qui seraient en marge des stéréotypes de genre et qui déploierait au maximum la liberté de l'actrice au plateau ou des actrices au plateau et de les mettre en récit dans des histoires plus contemporaines et dans des histoires féministes.
Oui, alors au-delà de ça, en lisant le projet de Créa, c'est aussi ce qui était très clair, c'était l'interrogation en fait de la place des personnages féminins dans les textes de théâtre et dans la culture en général et la culture française notamment.
Là, ce spectacle, il interroge vraiment un personnage de la pièce Don Juan de Molière, qui est un personnage assez connu pour les personnes qui connaissent cette pièce, qui est un personnage féminin, mais qui est quand même un personnage très secondaire dans la pièce de Molière. Et c'est d'interroger qu'est-ce que ça fait d'incarner un personnage complètement rétrograde qui est aimé et admiré pour son sens de l'abnégation, du sacrifice et pour ces qualités entre guillemets, excusez-moi de l'expression, de bonne victime aussi. Et qu'est-ce qu'on répète comme assignation quand on monte une pièce du répertoire et quand on modifie pas du tout les textes tels qu'ils sont écrits, qu'est-ce qu'on continue de véhiculer aussi à travers les personnages féminins du théâtre classique, du répertoire.
Oui, je rebondis sur justement vos propos. Ça interroge aussi
de fait peut-être la façon dont le metteur en scène va aussi diriger le comédien, ou ce qu'il va aussi mettre dans la direction de ce personnage dans sa mise en scène. Est-ce que au-delà du texte, c'est pas aussi aujourd'hui une question de comment un metteur en scène va concevoir voir ce personnage?
Je pense que c'est les deux, mais on part avec un texte comme ça, par exemple Don Juan, on part en étant très empêché, je veux dire, Elvire est construit vraiment en périphérie, et pour faire avancer c'est un personnage qui est périphérique et qui existe aussi pour faire avancer la narration du héros principal. Donc je pense que quelle que soit la volonté de mise en scène, si le texte n'est pas du tout modifié, c'est quand même très difficile d'en faire autre chose que ce que c'est déjà tel que c'est écrit. Ensuite, les questions de mise en scène, elles sont très intéressantes sur l'occupation de l'espace. Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est... en tout cas, moi, c'est un sujet de recherche que je commence aussi, c'est-à-dire comment est-ce que les actrices occupent les plateaux? Est-ce qu'elles les occupent de la même façon qu'elles occupent les espaces publics et les cours de récréation, c'est-à-dire sur les côtés, de façon discrète ou bien de façon centrale? Quelles sont les dynamiques entre les acteurs et les actrices, les différences d'occupation en hauteur, en termes de volume, quels sont les costumes qu'on met aux actrices, est-ce que c'est des costumes à l'intérieur desquels elles vont pouvoir fouler le plateau, ou bien est-ce que c'est des costumes qui contraignent aussi leur mobilité physique, de la même façon que les habits peuvent contraindre le corps des femmes dans l'espace public. Voilà, c'est des questions-là qui implique aussi la responsabilité des metteurs et des metteuses en scène.
Du coup, le 18 septembre, vous allez nous donner à voir et à entendre une lecture en fait d'un premier jet de votre texte #Elvire27. Et quand vous allez revenir en résidence de création la dernière semaine du mois d'avril, le spectacle va être un peu plus avancé au niveau construction de l'espace et de l'espace scénique. Est-ce que ce sera un seul en scène avec pour seule voix votre interprétation? Est-ce qu'il y aura plusieurs interprètes? Comment ça va se passer?
On est deux interprètes sur scène. Il y a une voix, on va dire, qui en même temps convoque plusieurs personnages, entités. Le spectacle, il est construit un peu comme un voyage initiatique, on va dire, où c'est la parole qui fait ce voyage, mais qui permet de faire exister plusieurs entités avec lesquelles l'actrice qui est au plateau va dialoguer. Mais ces entités sont toujours interprétées par cette même actrice. Et sur scène, il y a aussi Elisabeth Saint-Jeanne qui est scénographe et plasticienne. Et donc, au plateau, il y a quand même ces deux femmes. Et parallèlement au texte principal, on va dire, il y a aussi ce qui se déploie entre elles en termes d'intimité, on va dire, en tout cas de... Pas d'intimité au sens amoureux, mais d'intimité au sens... l'intimité aussi du plateau, des loges, qu'est-ce qu'une actrice et la personne qui la sublime, qui choisit dans quel apparat elle va, enfin qui la transforme, qui a aussi le pouvoir de la transformer, qu'est-ce qui se passe entre elles. J'imagine qu'à ce moment-là, on commencera à faire des essais de scénographie, il y a tout un travail autour du costume aussi et du rapport entre le costume et le corps de l'actrice. Qu'on va explorer, notamment à travers les robes, la question de la robe. On aimerait bien traverser aussi un peu l'histoire du costume pendant cette heure et demie de spectacle, quoi.
Je reviens sur aussi les origines de ce projet là dont vous nous parliez. C'est aussi une expérience vécue pour vous, Elvire,
voilà, oui,
sur le personnage d'Elvire. Quand même, je pense que ce qui a été un peu peut-être pour vous vous me confirmez, qui a été un peu le déclencheur, c'était votre interprétation, votre rôle de Elvire dans Don Juan, et des retours que aussi votre interprétation a provoqué. C'est intéressant. Oui, vous pouvez nous raconter, du coup, cette...
Oui, j'ai eu la chance de jouer Elvire dans une mise en scène contemporaine pour... une centaine de représentations, donc c'est un spectacle qui a beaucoup tourné sur les plus grands plateaux de France, qui a tourné aussi à l'étranger, on a joué en Chine, enfin c'était vraiment une aventure quoi, et donc j'ai porté, on va dire, ce personnage, j'ai vécu avec ce personnage pendant plusieurs années, deux ou trois ans. À la sortie du spectacle, donc on a, tout en respectant le texte de Molière, on a rendu ce personnage-là. Enfin, en fait, en tout cas, je n'ai pas effacé l'individu et la comédienne que je suis pour la faire rentrer dans l'idée du personnage ou l'idée qu'on peut se faire du personnage d'Elvire. Et donc c'était vraiment la rencontre entre ce personnage et en même temps moi, le propre rapport que j'ai. À mon corps, à mon énergie, avec... quand je parle, je peux avoir tendance à postillonner, j'ai les mains qui partent un peu, qui sont assez mobiles aussi, enfin, j'ai pas peur d'être, quelque part, de pas être dans ma plasticité la plus belle quand je suis dans le plateau, je ne privilégie jamais le fait d'être... belle ou d'être radieuse au plateau, je privilégie toujours quand même l'état de jeu et la mobilité que ça me demande. Et en fait, si ça me mène à un endroit qui est peut-être potentiellement proche du monstrueux, c'est quand même pas quelque chose qui m'inquiète. Et Elvire est Elvire qui est un personnage de jeune première, qu'on attend de voir d'une certaine façon, très digne et assez... lisse aussi dans sa colère, dans une colère très propre, très esthétique, etc. Ben là, elle était un peu, peut-être, elle était vivante, mais du coup un peu, peut-être un peu crade, quoi, entre guillemets, par rapport à l'idée qu'on se fait de cette princesse, ou de cette, enfin, il y a un peu ce côté, la princesse en robe blanche, quoi. Et donc j'étais en robe blanche, etc., mais j'étais dans une énergie assez... assez haute, voilà. Et donc quand le spectacle est sorti, il y a eu différentes critiques dans la presse qui disaient que l'actrice, donc Nadège Catalino, était trop ingrate pour un si grand rôle et que ça desservait le combat des femmes. Ça, c'était dans la presse nationale. Et ça m'a beaucoup questionnée sur qu'est-ce qu'on attendait de voir. Enfin, ça a vraiment été le moteur de cette recherche-là que j'ai entamée dans ce spectacle et que sûrement je poursuivrai après, sur qu'est-ce qu'on attend, dans quoi est-ce qu'on attend de voir une actrice et qu'est-ce qu'on attend de ces personnages classiques qu'on a vus et revus, idéalisés. Quand on déroge à cet idéal qu'on s'attend de voir, y a aussi un retour de bâton qui peut être assez violent, quoi. Et ça m'a interrogé cette violence des représentations.
Justement, avec hashtag Elvire27, Elvire revient pour prendre une revanche, prendre sa liberté, prendre, sais pas, un match retour. Comment ça marche? Dans quel état d'esprit cette Elvire 27 revient?
Je pense que c'est une forme assez hybride, donc qui est entre la conférence, enfin c'est aussi un travail de recherche quoi que j'ai mené, donc ça s'entame un peu comme une conférence avec un certain nombre de références, de réflexions plutôt théoriques. Et petit à petit, c'est une réflexion aussi sur le personnage d'Elvire, et en réfléchissant à ce personnage d'Elvire, c'est aussi comment est-ce qu'on vit. Enfin, c'est aussi une interrogation sur nos places dans nos vies amoureuses, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'être une Elvire ou ne pas être une Elvire? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas être elle absolument dans nos vies? Donc ça part du théâtre, mais après ça s'applique aussi une réflexion sur nos,
nos intimités le match retour, enfin, déjà c'est un oui, je pense que c'est vraiment un geste de dévoration du plateau, de pas, enfin c'est aussi comment ce personnage tout petit qui a genre ces deux monologues très furtifs par rapport à l'ensemble des mots et l'ensemble des paroles prononcées dans la pièce de Molière, comment ce personnage déjà prend sa revanche en devenant le centre de l'histoire. Et donc, et dans un débit de parole qui est quand même assez chargé, ça va très vite, il y a beaucoup de mots. Et comment à travers ça, bien sûr, ouais, il y a une revanche, elle ne se fait pas forcément. Mais quoique pour l'instant, la fin n'est pas encore écrite et j'ai quand même la sensation que le dernier acte, on va dire, qui est vraiment tout ce que Elvire n'a jamais dit à Donjon. ça termine quand même par, à mon avis, une logorée fleuve qui sera probablement utilisée. Mais pour l'instant, c'est pas écrit.
Et alors, votre relation avec le public, parce que vous l'abordez, c'est une réflexion, c'est une recherche, vous avez utilisé le mot conférence un petit peu, la place du public, où est-ce que vous la situez, où est-ce que vous l'attendez, cette place de public dans cette réflexion ?
Je pense que il y avait quand même l'idée de construire une forme assez pédagogique, donc, et d'entraîner les personnes dans un... à la fois dans une forme ludique et en même temps dans une véritable une vraie réflexion, quoi, sur justement la représentation des personnages féminins sur scène, mais du coup au cinéma et dans les fictions qu'on peut regarder, lire, écouter. Donc après il y a tout un parallèle entre le personnage d'Elvire que je fais et aussi avec le mouvement MeToo. Donc c'est... Il y a aussi une initiation à ces questions-là, au mouvement MeToo, à ce que ça a soulevé, aux réflexions, et comment le mythe de Don Juan est aussi un des premiers mythes qui permet et alimente la confusion entre la séduction et les violences sexuelles, quoi. Et donc comment un mythe ou une histoire peut aussi participer activement à une culture du viol très intériorisée. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le sujet de ma conférence, entre guillemets, mais à partir de, et en fait, là-dedans, il y a le public est vraiment emmené dans la réflexion, et après, il a accès aussi à toutes les sources qui ont nourri, enfin... toutes les lectures qui ont nourri ce qui est avancé. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait une idée un peu scientifique, enfin en tout cas sérieuse au niveau de la recherche, qu'il y ait des références, que ce soit sourcé, etc. Et en même temps, il y a un débit très rapide. Il y a une performance de l'actrice au plateau qui donne lieu aussi à une transformation, une mutation. Et les gens, ils sont emportés dans cette tornade, quoi. Il y a un peu un côté hypnotique, quoi, par la parole. Et en même temps, par moments, ils sont aussi face à un concert, parce qu'il y a des moments musicaux qui arrivent dans le spectacle. Donc la place du public, elle est réflexive. En même temps, elle est les spectateurs et les spectatrices sont face à un objet ludique, ils sont aussi face à un exploit, mais en tout cas celui de la performance, un exploit sportif, quoi. Et en même temps, à peu près, c'est ça, ils sont devant un concert, devant une performance, devant une conférence.
Voilà, qui les invite, enfin voilà, Elvire les convoque pour peut-être éclairer notre époque contemporaine à travers des textes qui sont issus du classique.
Après, peut-être que j'ai pas insisté là-dessus, mais il y a beaucoup d'humour dans la façon dont c'est écrit et dans la façon dont le public est convoqué, voilà.
Voilà. Sur un premier échange qu'on a eu avec Hélène Francici, qui interviendra également le 19 septembre à l'occasion des Journées du Matrimoine, elle nous disait que finalement, cette arme de l'humour était ultra puissante et nécessaire sur des sujets aussi délicats par la puissance du sujet, en fait, tout simplement.
Bah oui, c'est... Et puis l'humour est aussi un endroit de pouvoir, et je pense que quand on parle de cas de tentative d'égalité ou de répartition du pouvoir, l'humour participe à ça, je pense.
Très bien, bah merci beaucoup à vous, Nadège Catelino, d'avoir parlé de ce hashtag Elvire27 que nous retrouverons alors en cours d'écriture ce samedi 19 septembre. On aura l'occasion de le voir sur le plateau également durant cette saison, au mois d'avril, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Non. Là, je parle sous le contrôle de mes collègues.
Non, c'est le 30 avril.
Eh ben voilà, pour une fois que je dis pas de bêtises, c'était plutôt pas mal. Merci beaucoup, Nadège, d'être passé par nos micros.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. On repart en musique avec... ça y est, j'ai perdu le fil une fois de plus. Pardon, c'était...
Lilywood.
Eh ben oui, Lilywood, Fight Your Love.
Since you left for Cuba, your everything is cold. I don't want to be without you now. Been hanging upon you, living like a ghost, and feeling like you're never coming.
Ben voilà, on commence à se faire surprendre une fois de plus par la fin des morceaux. Eh bien voilà, nous en avons les secrets, bien entendu. Lilywood.
Oui, c'était aussi un de mes choix. C'est aussi un concert que j'attends impatiemment, qui va passer le 8 octobre au Cube également. Et c'est des artistes qu'on a déjà accueillis en résidence de Créa et qu'on adore.
Et ça nous amène au moment de l'agenda non exhaustif, des choses qui ont retenu notre attention.
Eh bien, pour compléter le programme des Journées du Matrimoine au Tangram et au Cube, c'est aussi un concert de Woudoumé qui vous est proposé le vendredi 18 septembre à 19h30 au Cube, et également les visites guidées du Cube le samedi 19 septembre. Mais je crois qu'il y a aussi des visites guidées du théâtre.
Non,
il n'y a que le Cube.
Et le dimanche.
Le dimanche, on aura aussi les visites du théâtre à l'italienne.
Théâtre Le Gendre, oui. Une à deux visites guidées, une à 11h, une à 14h30, et une visite libre, mais bien plus balisée, dans ces mêmes créneaux, si les gens viennent en dehors des créneaux de visite. C'est bien entendu sur réservation, puisque les groupes ne sont pas extensibles.
C'est important quand même de préciser. On a parlé bien sûr de l'effet Mathilda pour le 19 septembre à 16h à l'auditorium, et de hashtag Elvire27 que nous venons d'avoir, Nadège Catellino au micro, le samedi 19 à 18h30 au Théâtre Le Gendre. Bien sûr, ces deux propositions théâtrales, on le mentionne, sont gratuites.
Tout à fait, sur inscription.
J'y sais une actualité.
Alors j'ai plusieurs actualités, c'est la saison des festivals, ce mois de septembre, j'enchaîne les trois que j'ai sous la main.
Tu nous fais une Jenny Longo et tu sprints.
Voilà, le 4 et 5, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, le Fav Rock Festival, un festival de musique rock alternatif principalement, que l'on retrouve sur le site de la Noé à la Bonneville sur Iton, c'est ce vendredi et ce samedi.
Et la radio, Principe Actif, y est dès ce soir.
Tout à fait, nous y serons ce soir également. Alors un autre endroit où nous y serons, c'est le week-end d'après au Rock in the Barn, c'est le vendredi 11 et le samedi 12 septembre. Ce sera la dernière édition, ça a été annoncé, de ce festival mythique, le Rock in the Barn, qui se déroule à Vernon, pareil, à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis un autre événement à ne rater sous aucun prétexte au mois de septembre, c'est le 26 et le 27 septembre, c'est le festival Les Arts à la Mare, qui se déroule à Claville, avec un air de fête de village. C'est un festival qui est proposé sur le week-end. Voilà sur les trois propositions festivalières que j'avais dans ma besace.
Eh bien, beaucoup de festivals encore. Il y a les festivals avant-été, les festivals après-été. Ça ne finit jamais.
Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle.
On aura l'occasion, bien entendu, de vous parler des événements du mois d'octobre, parce qu'il y en a tout autant.
Aussi pour compléter sur la partie musicale du mois de septembre, dans la programmation du Cube, qui vient de sortir en programme, nous avons le 24 septembre une soirée rap-pop avec Zamdam sur le spectacle Rama. Ne pas manquer le jeudi 24 à partir de 20h au Cube. On vient bien sûr d'écouter Lilywood. Lilywood, ce sera au mois d'octobre, mais ce sera tout début octobre, qui sera présenté. Et le vendredi 25 septembre à 20h, c'est une soirée avec Justiniel et Pyjama. Et non pas Pyjama, mais Pyjama. Et là, on est dans une pop et un autre intitulé Spoken Word. Vous me direz, Spoken Word, je ne sais pas de quoi cela cause. Mais la pop, ça me parle, mais le Spoken Word, non.
On n'est pas loin du slam.
Ah.
Je pense que par moment, Nadège Catlino peut être aussi dans le spoken word.
Eh bien, ceci nous amène à la fin de cette émission. Bien entendu, c'était un agenda non exhaustif. Beaucoup d'autres événements vous attendent aux quatre coins de vos territoires, loin de chez vous, pas loin de chez vous. En tout cas, il y en a partout. Et nous terminons cette émission avec l'extrait de film. Et c'est encore toi, Nathalie, qui t'en est chargée.
Eh bien,
Madame Cinéma.
Le film est ouvert, on va dire. La proposition est ouverte. Voilà, c'était pour faire écho sur la question femme, comédienne, et puis l'actualité aussi cinématographique de la rentrée. On va écouter la bande-annonce du film Garance, qui sortira le 23 septembre 2026. Garance, c'est le dernier film de Jeanne Herry, une réalisatrice française qui a sorti deux longs-métrages auparavant, notamment ce long-métrage long-métrage sur la parole des familles, des portraits des familles de victimes de alors je cherche mes mots pour être sûre. Elle a fait tout un portrait sur la résilience judiciaire, voilà. Tout ce film de portraits, aussi bien de condamnés que de victimes et de familles de victimes sur la résilience judiciaire, qui était un film marquant quand même. Et là, on la retrouve dans une, plutôt un drame avec l'actrice Adèle Echarpe-Coppoulos. C'est Garant, c'est l'histoire d'une comédienne qui a quand même un certain talent sans être une vedette, mais elle gère de son mieux cette vie d'intermittente du spectacle, de femme, de vaillante, de joyeuse, de soldate de la scène, très engagée, mais pour trouver son carburant et pour combler ses failles et ses souffrances, et c'est un réconfort qu'elle cherche dans sa condition, elle rencontre l'alcool. Et c'est aussi tout ce parcours de femme, comédienne, avec ses addictions, mais aussi un parcours d'un être humain sur cette addiction et cette rencontre de vie qui va faire basculer et la mettre dans un parcours de guérison.
Garance, qui est à l'affiche actuellement.
23 septembre, 23 c'est pas encore. Septembre, voilà, pardon. C'est une actualité. On le retrouvera sur le mois de septembre à partir du mercredi 23 septembre.
Très bien. Et nous, on se retrouve le vendredi 2 octobre à 12h30 pour le Scène de vie, vie de scène du mois d'octobre. On se quitte avec la bande-annonce.
Alors, t'es comédienne ?
Un peu galérienne, mais.
Mais c'est ça, être comédienne, non ?
Ouais, c'est vrai.
Geste,
tu ne mérites pas d'être Zorro. Renonce ou vous allez le regretter, toi, Ellie. Tiens.
On sait qu'on peut pas t'aider à résoudre ton problème avec l'alcool.
Oh, désolé, énorme galère dans le RER. Il a fallu que je prenne un taxi.
Tu sais ce qui se passe si tu rates une représentation?
Y a pas de cas où je rate une représentation.
T'es Gwyn?
Pas beaucoup.
Tu m'envoies un message pour me dire que t'es bien arrivé?
Elle dit quoi?
Gueule de bois des enfers.
Elle dit gueule de bois des enfers.
Tu vis seule?
Ouais.
Et t'as pas besoin de voir du monde?
J'ai pas besoin de beaucoup de monde, non. Mais ça me manque un petit peu de...
De quoi?
D'aimer. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé.
J'ai pensé à toi.
Moi aussi.
Beaucoup.
Presque à peu près tout le temps, quoi. T'es pas bien ici avec moi?
Si. J'ai tellement de chance d'être avec toi. C'est juste que ça fait beaucoup d'angoisse. D'être loin de tout, sans alcool, je sais pas comment faire.
Garance, t'es une actrice géniale.
Mais je sais faire encore, moi.
Tu sais faire, bien sûr. Mais tu peux plus.
Tu nous ouvres? Je peux pas ouvrir, je peux pas sentir, j'ai trop peur.
Tu gères, Garance? T'as pas de problème?
L'alcool, c'est une béquille le soir. Et c'est un coup de poing dans la tête le lendemain matin.
T'es malade, mon amour. Moi, je suis un peu perdue.
Je t'avais prévenu, Pauline.
Vous devriez faire du sport.
Oh là, non, c'est pas possible, ça. Y'a pas moyen. Ça fait longtemps que je cours même plus après le bus, alors.